Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Liban, les deux gigantesques explosions au port de Beyrouth qui ont dévasté mardi des quartiers entiers de la capitale ont fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés, a indiqué aujourd'hui la Croix-Rouge libanaise. Ces explosions ont provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale, déclarée ville sinistrée. Selon le premier ministre Hassan Diab, ces déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans l'entrepôt du port. Cette substance entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs. Monsieur Diab a décrété mercredi jour de deuil national et promis que les responsables devraient rendre des comptes. La France, le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis, entre autres, se sont dit prêts à apporter leur aide au peuple libanais. Israël, techniquement en guerre avec le Liban, a de son côté offert son aide. Pour le président Donald Trump, les explosions de Beyrouth ressemblaient à un terrible attentat et des experts militaires lui avaient parlé d'une sorte de bombe. J'ai rencontré nos généraux, il semble que ce n'était pas un accident industriel, il semble, selon eux, que c'était un attentat, c'était une sorte de bombe, a-t-il déclaré hier. Lors de son point de presse à la Maison-Blanche, les autorités libanaises ont-elles parlé, on le sait, d'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port. En Guinée, l'opposition a annoncé hier le report en raison des examens scolaires de sa manifestation prévue jeudi contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, dont le parti doit choisir le même jour son candidat à la présidentielle attendu en fin d'année. En République démocratique du Congo, grève depuis lundi pour non-paiement de salaire des agents de santé chargés de la lutte contre la 11e épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, déclarée début juin dans le nord-ouest du pays. Tout en reconnaissant un problème, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a assuré que le ministre des Finances a déjà ordonné un décaissement partiel d'argent. L'Égypte a demandé hier la suspension des négociations en cours avec le Soudan et l'Éthiopie concernant la construction controversée d'un méga barrage par Addis Abeba sur le Nil. Le Soudan a de son côté menacé de se retirer des pourparlers, jugeant inacceptable la volonté de l'Éthiopie de lier les discussions à une renégociation d'un accord sur le partage des eaux du Nil bleu. En Afrique du Sud, 24 000 membres du personnel médical ont été infectés par le Covid-19 et 181 en sont morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé. La société de biotechnologie américaine Novavax, qui a reçu 1,6 milliard de dollars de Washington pour développer un vaccin contre le coronavirus, a annoncé mardi que son vaccin expérimental avait produit de hauts niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires. La pandémie a fait au moins 694 507 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h GMT. Plus de 18,3 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,7 millions ont été guéris. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 156 000 décès. Viennent ensuite le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Inde. Les États-Unis vont prochainement envoyer à Taïwan leur délégation la plus éminente depuis qu'ils ont cessé en 1979 de reconnaître diplomatiquement l'île, un geste qui risque d'aggraver les tensions sino-américaines. La tempête tropicale Isaias a balayé hier la côte est des États-Unis, où ces vents violents accompagnés de fortes pluies ont fait au moins 2 morts, causé des dégâts matériels et privé d'électricité plusieurs millions de personnes. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes en compagnie d'Idrissa Seydoudia. La suite de nos informations, en République démocratique du Congo, deux juges de la Cour constitutionnelle que le président Félix Tshisekedi a récemment nommés à la Cour de cassation ont préféré rester là où ils sont. Selon eux, la constitution et les lois du pays ont été violées par ces
communistes. Les juges Noël Kilumba et Jean Oubulu n'ont pas prêté serment hier devant le président Félix Tshisekedi, comme l'ont fait les autres magistrats nommés à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au parquet généraux. Ils avaient écrit au chef de l'État pour lui faire savoir qu'en conformité à la constitution, ils se trouvent dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour achever leur mandat de 9 ans. Ils affirment dans cette lettre avoir appris par la voix des ondes leur nomination comme président de la Cour de cassation et leur remplacement immédiat sans avoir été consulté. Le 15 juillet, la présidence avait annoncé la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, mais ses avocats contestent toujours sa démission volontaire. La Cour constitutionnelle est constituée de 9 juges, 3 nommés par le président, 3 par les parlements et 3 par les conseils supérieurs de la magistrature.
En Tanzanie, le principal parti d'opposition, Chadema, a nommé hier Tundu Lissu, qui a reçu 16 fois des tirs lors d'une tentative d'assassinat en 2017, comme son candidat à la présidence. Il devra affronter le président sortant John Magufuli aux élections d'octobre. Le point avec Michel Joseph.
Lors de sa réunion, le parti Chadema a approuvé à l'unanimité la candidature de Tundu Lissu aux élections générales du 28 octobre. Le président du parti, Freeman Mbowe, qui se remet lui aussi d'une attaque à motivation politique, l'a annoncé. Tundu Lissu, ancien député et vice-président de Chadema, est rentré d'exil le mois dernier. Il a vécu en Belgique pendant 2 ans pour se soigner après une attaque brutale devant son domicile à Dodoma en 2017, une année où il a été arrêté au moins 6 fois. Devant la presse, il s'est voulu rassurant. « J'ai été abattu 16 fois. Tous mes membres ont été déchirés par 16 coups de balle. Donc, me soigner, me remettre sur pied a pris du temps, mais je vais bien », a-t-il déclaré. Il affrontera le président John Magufuli, qui a pris ses fonctions en 2015, promettant une lutte contre la corruption, mais depuis a été accusé de restreindre les libertés, d'accroître l'autoritarisme et de chercher à dissimuler l'épidémie de coronavirus dans son pays. L'opposition craint que les élections générales se déroulent dans un climat de violence et d'intimidation et a appelé à la formation d'une commission électorale indépendante.
En Côte d'Ivoire, plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales pour participer à la présidentielle d'octobre. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la commission électorale. Le point avec Nani Talani.
La révision des listes menées du 10 juin au 5 juillet a permis l'inscription de 904 956 nouveaux électeurs, ce qui porte le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions, a expliqué Ibrahim Koulibaly, le président de la commission électorale indépendante. Selon lui, ces chiffres sont quasi définitifs, mais peuvent encore évoluer légèrement à l'issue de la période de contentieux qui permet aux électeurs de contester une inscription ou une absence d'inscription. Les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo protestent contre son absence des listes électorales. Aussi, Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ne figure pas sur la liste. M. Koulibaly a expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques est rayée des listes révisées.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, les bons du Trésor public sont émis depuis hier mardi pour emprunter l'équivalent de 25 milliards de francs congolais, soit 12,5 millions de dollars américains sur le marché financier intérieur, en vue d'établir un équilibre entre les dépenses publiques et les recettes. D'après Financial Afrique, le calendrier des émissions des bons du Trésor a été lancé en octobre 2019 pour remédier à la déficience des mobilisations des recettes de l'État. En juillet, le gouvernement a levé 32,75 millions de dollars américains, soit près de 60% du montant à lever. la Société Générale annonce avoir enregistré des pertes estimées à 1,26 milliard d'euros au deuxième trimestre, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur le projet Growth Africa, croître avec l'Afrique. La stratégie retenue pour le continent à travers ce projet visait à soutenir davantage les PME africaines. Ici aux États-Unis, les entreprises dirigées par des Afro-Américains souffrent plus que les autres de la crise et peinent à bénéficier de l'aide financière. C'est ce que révèle une étude de la Fed de New York publiée mardi. Un peu plus de 521 milliards de dollars ont été prêtés aux petites et moyennes entreprises du pays, mais les modalités d'octroi de ces prêts défavorables aux entreprises détenues par les Noirs sont pointées du doigt.
Les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Coup de tonnerre en Guinée-Bissau. Le comité exécutif de la Fédération de football a suspendu la commission électorale à moins de 5 jours de la date prévue pour les élections à l'instance nationale du football. Le comité exécutif reporte ainsi de nouveau les élections déjà renvoyées au 8 août, tout en annonçant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 7 novembre. Lundi, le collectif de 5 candidats à la présidence de la Fédération Bissau-Guinéenne de football s'est opposé à tout report, disant soupçonner une tentative de coup de force du président sortant Manuel Lopez Nascimento pour gagner du temps. Le 24 juillet, ce dernier a été suspendu pour 10 ans par la FIFA. Pour le moment, le communiqué de la Fédération ne précise pas s'il pourra se présenter. Et puis, l'international camerounais Adrien Tamézé ne disputera pas la suite et la fin de la Ligue des Champions. Son club, l'Atalanta Bergame, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles, ne l'a pas inscrit sur la liste remise à l'UEFA. Le club de Bergame affrontera le Paris Saint-Germain de son compatriote Maxime Choupo-Moting et du Sénégalais Idrissa Ganagé. Adrien Tamézé avait été prêté à l'Atalanta et est attendu à Nice cette semaine, club français avec lequel il reste sous contrat. Chaque équipe toujours engagée en Ligue des Champions pouvait inscrire un maximum de 3 nouveaux joueurs qualifiables sur sa liste, à condition de ne pas dépasser un nombre de 25 joueurs. Paris a ainsi intégré Michel Bakker et le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting à son effectif, tout en retirant Edinson Cavani et Thomas Meunier en vue du quart de finale contre l'Atalanta Bergame le 12 août. En Espagne, Iker Casillas, mythique gardien de but de l'Espagne, champion du monde en 2010, a officialisé sa retraite à l'âge de 39 ans. Aujourd'hui est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive. Le moment de dire au revoir est arrivé, a écrit le portier dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Avec 25 titres au cours de sa carrière, dont la Coupe du Monde 2010, 2 Euros 2008 et 2012, et 3 Ligues des Champions 2000, 2002 et 2014 avec le Real Madrid, il a incarné l'âge d'or de l'Espagne du football. Un malaise cardiaque à l'entraînement en mai 2019 avait mis un brutal coup d'arrêt à sa carrière. Après plus de 1000 matchs professionnels, même s'il était resté formellement membre cette saison de l'effectif du FC Porto, vainqueur du doublé Coupe Championnat au Portugal.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, Bio Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakidza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. En votre compagnie, Idrissa Sebuya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La tension monte au sein de la classe politique en Centrafrique. L'opposition et la société civile ont lancé un ultimatum de 3 jours au président Faustin Archange Touadéra pour convoquer une concertation d'urgence sur la situation du pays. Elle menace d'engager des actes de désobéissance civile au cas où cette demande ne serait pas satisfaite. Reportage de Freeman Sipila à Bangui.
L'ultimatum de l'opposition et de la société civile fait suite à une correspondance adressée le 7 juillet au chef de l'État, lui demandant d'organiser une concertation d'urgence avec toutes les forces vives de la nation sur la situation du pays à quelques mois des élections. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Vous savez pourquoi on demande la concertation? Parce que le régime démocratiquement élu que nous avons mis en place n'a pas pu à lui tout seul régler les problèmes du pays dans le temps. Sinon, on ne serait pas là à demander la concertation. On devrait être en train de se préparer pour aller aux élections. Mais rien ne marche comme il se doit. Il faut donc avoir un consensus politique.
Pour les responsables de ces organisations, la gestion actuelle du pays ne favorise pas un processus électoral crédible et inclusif. L'ancien Premier ministre Nicolas Tiangaï, porte-parole de la CO de 2020, la plateforme de l'opposition démocratique.
Touadéra a échoué dans la gestion de l'État. Il a un bilan qui parle contre lui. Il ne pourra pas tromper le peuple centrafricain en disant qu'il a réussi. Parce que quand il était arrivé au pouvoir en 2016, 50% du territoire était occupé par les groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%. Il ne peut pas dire que sur le plan sécuritaire qu'il a réussi. Au plan économique, au plan social, au plan de la lutte contre le coronavirus, il ne peut pas dire qu'il a réussi.
Et notre ancien Premier ministre Mahamat Kamoun déplore lui aussi la détérioration de la situation sécuritaire à l'intérieur du pays, ce qui justifie selon lui la nécessité de cette concertation.
Lorsque nous, partis politiques ou d'autres voix dans le pays s'élèvent pour insister, pour dénoncer l'insécurité grandissante sur toutes les territoires, ce n'est pas des vains mots, c'est une réalité. On vient d'assister aussi il y a une semaine à une situation à Ouada où on a brûlé tout un quartier, la population aujourd'hui, des milliers de personnes qui se trouvent dans la brousse et un peu partout dans l'Ouampembe, etc.
L'ancien président François Bozizé, le chef de file de l'opposition Anissé Georges Dologuélé et bien d'autres leaders politiques, tous sont unanimes et exigent la tenue de cette concertation. Ils menacent d'organiser des actes de désobéissance civile si le chef de l'État persiste à faire la sourde oreille. Gervais Lacosso.
Une concertation, ce n'est pas quelque chose qui dépasse le chef de l'État de faire, de mettre en place. Et nous avons dit que c'est un dernier appel. D'ici 3 jours, si ce n'est pas fait, nous allons lancer un mouvement de désobéissance civile pour exiger la convocation de cette concertation.
Depuis le week-end dernier, le pouvoir fait face à d'énormes pressions politiques et sociales. Le groupement syndical des travailleurs de Centrafrique a appelé à une grève de 2 jours à compter de ce mardi. De son côté, le groupe de travail de la société civile appelle à l'observation d'une journée ville morte ce mercredi 5 août à Bangui pour exiger la démission du Premier ministre Firmin Ngrebada. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les autorités ont fermé une église à Yaoundé qui nie l'existence du coronavirus. Cette communauté évangéliste va jusqu'à prêcher à ses 300 membres d'ignorer les conseils médicaux sur la distanciation sociale, le port du masque et même le lavage des mains. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Cette musique est diffusée sur haut-parleur par un groupe de 7 membres du Tabernacle de la Liberté à Yaoundé, la capitale camerounaise. 4 femmes et 3 hommes font du porte-à-porte se présentant comme des évangélistes de la fin de temps. Prudence Maya, 32 ans, dirige ce groupe. Selon elle, Dieu leur a révélé, par l'intermédiaire de leur pasteur Ngoa Atangana, le mois dernier, que les nations perdent leur temps et ressources
à la lutte contre le Covid-19.
Nous demandons à tout le monde de se mettre à genoux, de prier et de savoir que le coronavirus n'existe pas. C'est Dieu qui est en train de punir les actes répréhensibles, les nombreuses guerres dans le monde. Un homme épouse un homme et une femme épouse une femme. Dieu est très en colère.
Parmi les 45 maisons visitées lundi par le groupe figure celle de Léonie Fozzo, une fermière de 49 ans qui croit aux enseignements de la petite église et suivra son ordre de ne pas porter de masque.
Ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. Je suis un bayam, je pars en brousse, je pars partout. Je n'ai jamais attrapé une femme que voici le corona. On a la toux au Cameroun, on a la fièvre, on a un peu de maladie qu'on dit que ça suffit. Les gens meurent comme eux mouraient avant, donc il n'y a pas de différence.
Pourtant, le Covid-19 est bien réel. Depuis fin décembre, la pandémie a fait près de 700 000 morts dans le monde et plus de 18 millions de cas recensés. Le Cameroun a enregistré plus de 17 000 cas et près de 400 décès. Cela n'arrête pas l'église du Tabernacle de la Liberté qui compte quelques 300 adeptes et touche encore plus de gens avec des émissions sur les stations de radio de Yaoundé. En dépit de la fermeture de l'église, les membres ont continué à organiser les prières et les réunions quotidiennes devant le bâtiment scellé. L'église dit qu'elle envoie aussi quotidiennement 15 groupes de 7 pour prêcher son message erroné sur le coronavirus.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Sénégal, une attaque contre les locaux du quotidien Les Échos a mis en exergue les violences contre les médias et incité les associations de la presse à la mobilisation. Souvent victimes de menaces et quelquefois d'attaques verbales ou physiques, les journalistes espèrent, suite à ce nouvel abus contre leur corporation, mettre fin à ces persécutions provenant des milieux politiques, religieux et coutumiers. De Dakar, notre correspondant Sidina Abagay.
Ce lundi 3 août 2020, le quotidien Les Échos mettait à sa une la contamination à la Covid-19 et l'hospitalisation de Serigne Moustapha Sy, le guide moral de la puissante association religieuse des Moustachidines et président du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement. Une information qui a déchaîné ses disciples qui ont d'abord sorti un communiqué menaçant le journal. Le quotidien Les Échos a été par la suite attaqué violemment par des individus, comme le relate le rédacteur en chef, Mbaye Tchandoum.
Des gens ont débarqué au niveau du journal et sont mis à s'attaquer à notre matériel qu'ils ont complètement bousillé. Donc ils ont cassé pas moins de 8 ordinateurs et la télévision. Donc c'est déjà à leur arrivée, ils se sont réclamés comme des talibés de Serigne Moustapha Sy, donc avant de commettre le forfait. Si le journalisme est une corporation un peu indexée, bon, les gens s'attaquent à tort à travers à la presse et je crois que c'est l'occasion aussi de mettre un terme à tous ces dérives par rapport au journalisme.
Au lendemain de cette énième attaque contre les médias, la CAP, la coordination des associations de presse, s'est mobilisée pour demander aux autorités plus de sécurité face à ces actes qui secouent l'un des piliers de la démocratie sénégalaise.
Cet acte de terreur lâche et visiblement planifié et coordonné appelle une condamnation de tout patriote soucieux du devenir démocratique de notre pays. La CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement de la République du Sénégal afin que la sécurité des journalistes soit une réalité institutionnelle, d'abord avec le parachèvement des textes réglementaires qui sont toujours en souffrance dans les arcanes du pouvoir.
Au-delà de la saisine des autorités, le SENPIX, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, estime que c'est un combat que la presse doit mener avec fermeté sur tous les fronts possibles. Le secrétaire général du SENPIX, Bamba Kassé, se dit surpris et déçu, mais déterminé.
Nous pensions que le Sénégal avait dépassé cette période noire où on pointait du doigt la presse et où on essayait de la faire taire. Malheureusement, cet acte nous renseigne que ce n'est pas encore le cas. Donc cette agression, nous considérons même que c'est une agression à notre encontre. C'est une tentative de muselement de la presse. Maintenant, il faut faire face et il faut le faire avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de fermeté. Donc notre rôle, c'est de marquer notre solidarité, mais aussi d'accompagner le média en question dans toutes les actions judiciaires que ce média va entendre.
Le quotidien Les Échos a déposé une plainte et la section de recherche de la gendarmerie a d'ores et déjà procédé à l'arrestation de 6 personnes impliquées dans l'attaque. Lors de la présidentielle de 2019, des journalistes avaient également subi une attaque à Tambacounda à la suite de violences meurtrières impliquant là aussi des membres du PUR. Ces derniers ont été condamnés à des peines allant de 3 mois à 15 ans de réclusion criminelle.
Ndia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 et l'adaptation au numérique. Alors que beaucoup de secteurs souffrent énormément des restrictions imposées un peu partout pour essayer de contenir la propagation du nouveau coronavirus, les plateformes digitales enregistrent un grand boom. Du commerce électronique au télétravail, le numérique est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien des populations. Quelles sont les opportunités et les défis d'un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous jeudi 6 août à 19h30 universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
L'UNESCO a annoncé la réhabilitation du site de la falaise de Banyagara, classé au patrimoine mondial de l'humanité dans la région de Mopti. La crise sécuritaire au Mali a provoqué la destruction de près de 30 villages, localisés pour moitié sur ce site. Le projet vise à réhabiliter les logements, les greniers et des sites consacrés à la culture traditionnelle. Eric Manirakidza a joint à Minneapolis le professeur Chérif Keïta.
C'est une grande nouvelle pour le Mali et pour l'humanité parce que Banyagara et la population qui habite là-bas, les Dogons essentiellement, et aussi les Peuls, constituent une des zones culturelles les plus riches et les plus spectaculaires de l'humanité. Je l'ai visité à plusieurs reprises avec mes étudiants, pendant des années mes étudiants américains, parce que cette région a produit de grands humanistes. Quelqu'un comme Amadou Ampateba, dont vous avez peut-être entendu parler, le grand sage, le grand chartre du dialogue entre les religions, de la tolérance, est né dans la ville de Banyagara. Il y a aussi un autre, Yambo Ologem, tous les deux décédés maintenant, un des grands auteurs maliens et africains les plus étudiés dans les universités à travers le monde, qui a écrit « Devoir de violence ». Donc, ces deux sages ont célébré la culture du vivre ensemble dans cette région, qui n'a pas été facile à travers l'histoire. Donc, ça, c'est une grande nouvelle. La restauration des sites qui parsèment toute cette région et des traditions, des rites, que ce soit des rites funéraires, des rites agraires, que les Dogons ont inventés et qu'ils ont conservés jalousement pendant des siècles. C'est un peuple très, très jaloux de sa culture. Mais, malheureusement, un peuple qui a toujours vécu sur la brèche, dans la mesure où ils ont été toujours victimes, n'est-ce pas, d'attaques hostiles venant de leur environnement. Au XIXe siècle, ils ont eu à partir de l'arrivée de certains mouvements qui voulaient répandre l'islam par la force. Voyez. Donc, ces restaurations vont certainement contribuer à calmer la région, même moi.
Oui, justement, il y a toujours un problème sécuritaire là-bas. Comment on va procéder?
Ben oui, voilà, le problème sécuritaire, ce problème sécuritaire provient de l'effondrement de l'État malien. L'État malien s'est effondré depuis le début des années 2000 et cet effondrement de l'État malien, pour moi en tout cas, moi, je le dis très humblement, la cause c'est la déliquescence de l'école laïque au Mali. On a laissé l'enseignement laïque à l'abandon pratiquement depuis les années 1970. Et c'est la conséquence donc de la prolifération de l'ignorance qui a résulté de cela, c'est la conséquence qu'on voit dans l'effondrement de l'État et aussi dans l'effritement du tissu social, n'est-ce pas, qui a été constitué par le vivre ensemble dans cette région. Donc, puisqu'il s'agit de l'UNESCO, oui, d'accord, c'est bon de restaurer les sites, mais moi je crois que l'UNESCO, puisque sa mission est l'éducation, l'UNESCO doit aussi essayer de muscler le système d'enseignement, non seulement dans la zone Dogon, donc Banyagara et région proche, mais aussi au Mali, sur le territoire du Mali. Parce que le Mali, de par sa position stratégique, le Mali est pratiquement le nombril de cette région. Et toute insécurité qui sévit dans cette région aura un impact dans la sous-région. Voyez. Donc la restauration de l'école, à mon avis, est peut-être ce qui va sauver ce patrimoine de l'humanité. C'est la restauration de l'enseignement public laïque. Parce qu'il y a toute une génération de jeunes qui grandissent sans formation, voyez, et qui peuvent être la proie de prêcheurs mal intentionnés. Donc ce n'est qu'en formant ces jeunes-là, en leur donnant un espoir, n'est-ce pas, de lendemain meilleur, grâce aux études, que la paix sera solidement implantée dans cette zone.
Chérif Keïta, professeur à Carleton College, Northfield, dans le Minnesota. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de